Bonjour Irina Slavinska.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de la radio culturelle ukrainienne, la radio publique, et ça fait déjà quelques années que vous travaillez dans la radio. À la radio, vous avez également travaillé pour une autre station avant, il me semble. De quelle manière, comment est-ce qu'a changé la radio depuis l'invasion à grande échelle de février 2022?
Moi, je travaille pour la radio comme média spécial depuis 2013. J'ai commencé à travailler pour la radio à partir du début de la révolution de la dignité, de l'Euromaïdan à Kiev. Et pour moi, c'était une vraie découverte de la force de la radio ces jours-là. Bien qu'à l'époque, je travaillais pour la toute petite radio presque bénévole qui était fondée par la NGO créée par les journalistes qui s'opposait contre la censure des temps de Yanukovych, notre ex-président ukrainien.
Hromadske
Alors pour
radio.
moi, Hromadske Radio, c'est ça. Et moi, avant, j'avais l'expérience surtout dans les médias en ligne et dans la télé. Donc la radio, c'était quelque chose d'assez neuf, d'assez inconnu pour moi. Et moi, j'étais vraiment passionnée par la force de la radio. À partir de 2018, je rejoins l'équipe de la radio publique. Pour moi, c'était la réforme qui me passionnait beaucoup. J'adorais voir comment est-ce que les ex-stations de radio et les chaînes de la télé qui étaient d'État se transforment en médias publics, tout à fait différents avec les standards rédactionnels, avec l'éthique, avec toute la déontologie tout à fait différente de ce qui existait avant. Pour moi, c'était un grand honneur de devenir la chef, la patronne de la radio culture, où je travaille depuis 2018. Et pour moi, la radio, c'est toujours la même chose. C'est quelque chose qui a beaucoup de force, quelque chose qui a beaucoup d'influence et quelque chose qui a beaucoup de la transparence. Parce que la radio n'a pas de frontières. Et pour nous, surtout à partir du début de l'invasion en pleine échelle, dès le mois de février 2022, c'est devenu très clair, car c'était surtout la radio que les gens pouvaient entendre même sous l'occupation russe. Et c'est le cas même aujourd'hui dans la Crimée occupée, dans les régions de Donetsk et de Luhansk occupées, tout comme dans les parties de la région de Zaporijia, de Kherson, etc. Partout, même sous le contrôle russe, il y a toujours les ondes de la radio qui sont présentes et qui sont là. Je parle des ondes ukrainiennes, bien sûr, pour donner la vérité, donner les informations correctes aux Ukrainiens qui souffrent sous l'armée russe.
On va revenir évidemment à votre travail actuel et à la manière dont vous diffusez actuellement, mais pour revenir sur ce que vous disiez, ce n'est pas en 2022 qu'a commencé la diffusion dans des zones occupées, puisque dès 2014, la radio publique ukrainienne a diffusé vers les auditeurs, vers les populations qui étaient déjà sous l'occupation, qui ne disaient pas son nom à l'époque.
Tout à fait. Bon, en Ukraine, c'était clair que c'était déjà l'occupation dès 2014. Et c'était très important de savoir que les gens de Donetsk, par exemple, peuvent quand même capter les ondes de la radio ukrainienne. Et pour moi, personnellement, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Et souvent, je recevais les messages dans les réseaux sociaux des gens qui m'écoutaient, même sous l'occupation. Et c'est quelque chose qui me donne toujours des larmes aux yeux. Et c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup de l'importance de notre travail.
Vous êtes la radio culturelle, cela ne vous empêche pas, évidemment, malheureusement, de parler d'actualité, d'actualité tragique. On l'a encore vu cette semaine avec des bombardements, des morts civiles, des morts d'enfants, des morts de nourrissons. Est-ce que vous avez des flash infos réguliers tout au long de la journée? Je sais qu'il y a un marathon de l'information qui est produit par la radio publique aussi.
À la Radio Culture, on a les informations chaque heure, dès la matinée jusqu'au soir. Donc, même la programmation culturelle avec de la musique classique, etc., permet de nous donner de l'information actuelle à notre audience. Mais l'autre chose qui est importante, c'est de voir que la culture en Ukraine, surtout depuis 2022, mais bien sûr avant aussi, c'est quelque chose qui aide les gens à reconstituer des liens avec leur identité ukrainienne. Et on voit avec un nouvel élan que la culture n'existe pas en dehors de la vie actuelle, de la guerre, de la politique, etc., on voit que la possibilité de découvrir, de mieux comprendre la culture ukrainienne, c'est aussi un vaste de la défense de notre identité ukrainienne. Et moi, je pense beaucoup aux gens qui nous écoutent et qui trouvent les forces qu'ils peuvent puiser dans notre programmation, même s'il ne s'agit pas souvent de des choses qui concernent la guerre ou les reportages de la ligne du front, etc.
Pour ce qui concerne l'actualité de la guerre, vous avez également eu recours à des correspondants qui étaient dans des zones occupées. Je pense notamment à la ville de Kherson avec quelqu'un qui a pris énormément de risques pour vous donner les informations de là-bas. Je suppose que ça continue ailleurs, même si on ne peut pas parler de tout, évidemment.
Oui, bien sûr, la présence des reporters, des journalistes de Suspil, du média public ukrainien sur les territoires occupés, c'est quelque chose qui reste très important pour toutes les rédactions. Surtout l'équipe des infos travaille beaucoup avec ces reporters-là. Mais pour moi, personnellement, comme pour quelqu'un qui travaille comme la présentatrice presque chaque jour dès le début de l'invasion en plein Shell, l'histoire la plus touchante, c'était les conversations avec notre collègue qui se trouvait à Kherson occupé. Maintenant, on peut donner son nom, c'était Margarita Lasnik, qui avait assez de courage pour nous laisser l'appeler chaque jour. Donc, par téléphone, à la radio, on avait les infos les plus véritables sur la situation dans le Kherson occupé. Et moi, c'était la présentatrice qui animait le direct le lendemain après la libération de la région de Kherson. Donc c'était le 12 novembre. La libération, c'était le 11 novembre 2022. Le direct que j'avais avec Margarita, c'était le 12 novembre. Je me rappelle le changement de sa voix, parce que je connais sa voix par cœur, bien sûr, comme tous les présentateurs, comme toute l'audience. Mais du coup, dans la matinée de 12 novembre, le lendemain après la libération de la région, j'ai entendu toute la légèreté et toute la lumière dans sa voix. On pouvait même ne pas lire les infos sur tout ce qui se passait dans les régions de Kherson, mais on pouvait déjà savoir, même à travers le son de sa voix, qu'il y avait quelque chose de très bien qui se passait. Et cette voix éclairée par les infos de la libération, de la fin de l'occupation russe, c'est quelque chose que je n'oublie jamais dans ma vie.
Irina Slavinska, dans quelle mesure l'actuelle stratégie de bombardement russe qui touche les infrastructures énergétiques, on le sait, a-t-elle encore renforcé le rôle de la radio qui peut évidemment s'écouter avec un petit poste et deux ou trois piles notamment, mais pas seulement?
Déjà, je pense qu'il faut savoir que cette stratégie des bombardements russes contre tout système énergétique de l'Ukraine, c'est quelque chose qui est fait d'une manière absolument consciente, parce que toutes les centrales électriques, ça existe depuis l'époque soviétique. Donc, il faut être lucide et comprendre que les Russes, ils ont toutes les cartes, ils comprennent où est-ce que se trouvent les centrales électriques. Donc cette infrastructure n'est pas touchée par hasard. C'est quelque chose qui est fait d'une manière consciente. Et donc dans ces réalités-là, avec les immeubles qui restent sans électricité, souvent sans chauffage, souvent sans eau courante, pendant ces coupures d'électricité, le seul moyen d'être au courant des infos qui se passent, c'est surtout la radio. Et moi, je pense que pour toute la population ukrainienne, pour notre audience, mais aussi pour les gens qui ont perdu cette habitude d'écouter de la radio, l'expérience des coupures d'électricité à partir de l'hiver 2022, c'était une grande surprise de reconnaître la radio comme un média qui n'est pas conservatif, qui n'est pas vieux, mais qui est vivant, qui est très vite à donner les infos et qui est présent même dans les journées les plus noires. Sens très direct. Donc moi, je sais beaucoup de gens qui ont renouvelé cette habitude d'écouter de la radio, et moi, je pense que pour toute l'équipe des journalistes de la radio, c'est aussi un nouvel élan pour comprendre notre importance, l'importance de notre travail et notre présence, notre proximité pour n'importe quel foyer ukrainien.
Est-ce que cette importance du média radio varie en fonction de la proximité du front ou de son éloignement ou de l'occupation?
Oui et non, je pense que Ça dépend surtout de l'expérience personnelle des gens. Par exemple, si on parle de la proximité des lignes de front, on reçoit très souvent des messages des soldats ukrainiens qui font leur service, qui combattent pour l'Ukraine et qui écoutent de la radio, même de la radio culture, même de la musique classique. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pareil avec les gens qui habitent ces régions-là à proximité de la ligne du front, parce que eux, surtout, ils souffrent de l'absence de toute l'infrastructure nécessaire, les coupures d'électricité, etc. Ça existe surtout dans ces régions-là. Et pour eux, surtout, la radio, c'est quelque chose qui est et qui reste la source la plus importante de l'information. Même, mais si on parle même des régions assez éloignées de la ligne du front, comme la ville de Lille, etc., là aussi, tous les gens souffrent les mêmes réalités de la guerre que partout ailleurs en Ukraine. Et pour eux, les radios comme médias restent aussi importants. Et moi, je pense que l'idée assez importante à retenir de cette question-là, c'est de comprendre que maintenant, en Ukraine, il n'existe pas de région qui serait plus safe que d'autres. Parce que malheureusement, les missiles russes volent au-dessus de tout le territoire ukrainien et peuvent tomber dans n'importe quelle région, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel district.
Les médias publics font face à des défis dans de nombreux pays d'Europe. L'Ukraine est un cas évidemment très particulier. Un rapport de l'UNESCO qui a été publié récemment parlait des dommages causés aux médias, où environ 40% des médias ukrainiens ont dû fermer ou modifier leur publication, leur diffusion, et puis également des dommages sur la santé mentale des journalistes, avec un pourcentage très élevé de journalistes qui devaient faire face à des problèmes concernant la santé mentale. De ce que vous pouvez observer chez vos collègues, est-ce que le travail est, au bout de ces 4 années d'invasion à grande échelle, de plus en plus difficile?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de côtés à observer et à faire les conclusions. Déjà, je pense que, par exemple, si je parle de nos collègues, de mes collègues qui travaillent à la radio, déjà, on parle de gens qui ont l'expérience de 12 années de la guerre à partir de 2014, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui entraîne quand même les changements qui concernent tout ce qui est lié avec l'influence du stress, etc. De deux, beaucoup de collègues avec lesquels je travaille ont leur famille, ont leurs proches qui ont servi sur la ligne de front. Il y a ceux qui maintenant se combattent comme les soldats. Il y a malheureusement ceux qui ont été tués par les Russes. Il y a ceux qui maintenant font tout leur possible pour aider la ligne du front par d'autres moyens. Mais il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose, la guerre pour la rédaction où je travaille, ce n'est pas quelque chose dont on réfléchit, c'est quelque chose qu'on vit. N'importe quelle alerte aérienne qui peut arriver dans la journée, au cours de la journée, c'est aussi quelque chose qui influence le quotidien, même si on peut en avoir déjà habitude, bien qu'il est impossible d'avoir habitude à ce genre de choses. Mais en tout cas, ça devient le partie de la routine, mais quand même, ça influence beaucoup le train-train du travail. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de petits signes de la guerre donc, qui influencent le quotidien, mais il y a aussi, disons, cette grande influence de vivre à l'époque de la guerre. Donc, les 12 années de nos vies, des vies de nous tous, ont été passées avec la guerre qui se déroulait sur le territoire ukrainien. C'est quelque chose qui change quand même.
Irina Slavinska, on sait que la Tchéquie a fait partie des principaux soutiens à l'Ukraine depuis l'année 2022. Est-ce que la culture tchèque est présente parfois sur votre antenne?
Oui, bien sûr, parce que pour nous, la culture des pays voisins, c'est quelque chose qui est très important. On se sent ensemble dans la famille des États européens. Et notre patrimoine, je pense, est très cher à nous tous, comme pays, comme professionnels. Je pense beaucoup à la tradition de radio-théâtre qui est présent à la radio tchèque. Je connais que c'est quelque chose qui est très important dans la culture de la radiodiffusion dans la République tchèque. Et moi, j'apprécie beaucoup ce savoir-faire à cette habileté de conserver ce genre de patrimoine, de le garder comme partie de la programmation contemporaine. C'est quelque chose qui m'est beaucoup compréhensible parce que nous, à la radioculture ukrainienne, on garde aussi ce format du radiothéâtre. Bien que c'est très cher comme production, mais pour nous, il est très important de non seulement avoir les archives très riches, remplies des radios, pièces théâtrales de toutes sortes, mais de continuer la création des radiothéâtres contemporains, soit préparés par les dramaturges ukrainiens contemporains, soit préparés par notre rédaction littéraire qui retravaille les grands classiques, par exemple. Mais en gros, ce patrimoine me paraît très important et j'apprécie beaucoup toute la tradition tchèque là-dedans.
Et c'est vrai que la tradition des pièces de théâtre radiophonique est importante à la radio publique. Je ne sais pas si vous jouez des compositeurs tchèques de musique classique, parce que je crois que la musique classique est également importante sur votre antenne. Et à ce propos, vous ne jouez pas de compositeurs russes, et ça ne date pas seulement de l'année 2022, si je ne me trompe pas. C'est une décision qui a été prise avant.
Non, non, bien sûr, les compositeurs russes, c'est quelque chose qui est impensable dans notre programmation. Et à partir de 2022, on a eu un nouvel élan dans la compréhension de l'importance de ce genre de la décision. Pour nous, le principal est de non seulement transmettre la culture mondiale classique musicale à notre audience, y compris les compositeurs tchèques, les musiciens tchèques, etc., mais aussi de parler, d'aider à découvrir la culture musicale classique ukrainienne. Parce que, à cause de l'influence d'Empire russe qui durait pendant plusieurs siècles, même aujourd'hui, plusieurs gens peuvent ne pas reconnaître trop la musique importante ukrainienne qui fait partie de l'histoire de notre culture qui reste très importante même au niveau mondial, etc. Donc nous aimons beaucoup à aider notre audience à découvrir non seulement les noms des compositeurs classiques d'autre temps, mais aussi le classique contemporain créé par les compositeurs contemporains. Par exemple, les symphonies symphoniques écrites sous l'influence de l'expérience de la guerre, etc. Il y a plusieurs exemples. On travaille beaucoup avec les salles de concert, les philharmonies, etc., dans toutes les régions ukrainiennes. Et j'apprécie beaucoup la possibilité de sauvegarder ce patrimoine contemporain.
La question de la langue est évidemment primordiale. De quelle manière est-ce que la langue employée sur les ondes de la radio publique ukrainienne a évolué ces dernières années? Je suppose qu'il y avait aussi des journalistes et des présentateurs ukrainiens de langue russe. Comment est-ce que ça a changé depuis, disons, une dizaine d'années?
Pour la radioculture, ce n'était pas le cas parce que notre concept de la programmation prévoyait les programmes qui n'existaient qu'en russe. La seule exception qui était pensable, comme le cas très rare, c'était la langue russe pour les invités, qui parfois étaient d'une génération assez spéciale, sans l'occasion d'apprendre. Etc. Mais à partir même d'avant 2022, on a arrêté quand même ce genre d'exception. Et moi, je pense que c'était très bien parce que ça aide aussi à comprendre et à penser la langue ukrainienne comme la langue d'expression contemporaine qui est accessible, qui est très facile à utiliser et qui est très riche pour parler de n'importe quelle expérience artistique ou politique ou sociale, etc.
Ça veut dire que sur votre antenne, on n'entend pas non plus ce qu'on appelle sourjik, je crois, un mélange d'ukrainien et de russe.
Au maximum, comme une partie de l'expression artistique de certains écrivains, si on travaille par exemple le radiothéâtre, il existe certaines pièces qui sont écrites avec le recours à cet instrument d'expression langagière, mais je pense que c'est surtout, disons, quelques lignes ou même quelques phrases que vous pouvez entendre. Il existe plusieurs d'autres moyens de rendre la langue parlée plus vivante sans recourir à sourjik.
Irina Slavinska, vous avez l'habitude de parler de temps en temps à des médias étrangers, notamment des médias francophones, puisqu'on l'entend, vous parlez très bien le français. Est-ce que vous regrettez que parfois on ne vous pose pas la bonne question? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous pose comme question qu'on ne vous a pas posée encore?
Je pense que votre compréhension est parfaite. Je n'imagine pas qu'il existe la question qui n'a pas été posée. Moi, peut-être, je voudrais juste un petit détail que la chose très importante pour nous, c'est la possibilité de travailler avec les artistes qui ont de l'expérience comme soldats ou qui sont les vétérans, par exemple. Et cette vague des poètes, des dramaturges, des réalisateurs, etc., qui ont vu la guerre dès la ligne du front, c'est quelque chose qui est très important dans toute l'Ukraine, mais surtout pour notre rédaction. Et moi, par exemple, j'ai l'honneur de savoir que mes collègues de la rédaction de Radio-Théâtre préparent quelques pièces écrites par les gens qui ont eu cette expérience comme soldats. Que notre rédaction des émissions quotidiennes parle régulièrement des artistes qui sont les vétérans, soit les soldats, soit autrement font partie de l'armée, des forces de la défense ukrainienne, et comme, tout comme la rédaction musicale qui travaille régulièrement avec les différentes œuvres de la musique, surtout symphonique. Créé dans le même cadre de la réflexion artistique sur la guerre. C'est un grand honneur pour nous et moi je pense que c'est là où se trouve une des racines de la compréhension de ce qui se passe vraiment en Ukraine.
À propos de cela,
Au-delà des infos, au-delà des explications, etc.
du dialogue et de l'écoute d'anciens soldats et d'anciennes personnes au front notamment, y a-t-il des formations? Je suppose qu'il y a de plus en plus d'expérience dans ce domaine, mais pour recueillir la parole de soldats et notamment de prisonniers, de victimes sous l'occupation, notamment de victimes de violences sexuelles, de victimes de torture. Est-ce que il y a des programmes pour former vos journalistes à la radio publique ukrainienne?
Je pense que ce genre de conversation, ce genre de contenu, des interviews par exemple, ça demande beaucoup de savoir-faire. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs NGO, plusieurs NGO, des journalistes qui organisent les formations courtes pour donner plus de cadre pour ce savoir-faire. Parce que quand même, on parle des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont vécu plusieurs événements difficiles comme la captivité russe, par exemple, comme cet état de prisonnier russe. Pour moi, par exemple, c'est quelque chose de très important parce que moi, comme présentatrice, je me spécialise sur les sujets des droits de l'homme. Et moi, j'ai dans mon portfolio quelques interviews avec les ex-prisonniers, surtout celles qui ont été les artistes, mais non seulement. Et moi, je sais que chaque conversation de ce genre-là, chaque interview de ce genre-là, c'est une longue aventure, c'est un long voyage de la préparation, de la lecture, de la réflexion. C'est quelque chose qui doit être assez délicat, mais c'est quelque chose qui est assez douloureux à suivre, à écouter, à entendre. Donc, pour répondre à votre question, oui, je suis sûre que ça demande une certaine formation, mais en même temps, il existe aussi la délicatesse humaine, la compréhension humaine ordinaire, qui sont aussi nécessaires pour parler d'une manière adéquate de ces expériences plus compliquées.
De ces expériences terribles. Dernière question, Irina Slavinska, vous avez évoqué l'importance de la culture en temps de guerre. Est-ce que la radio publique culturelle ukrainienne peut également aider à envisager l'après, et notamment avec ces artistes que vous interviewez? Est-ce qu'il est possible d'envisager avec eux l'après dans les entretiens, dans les reportages?
Oui et non, parce que du coup, on ne peut pas savoir quand est-ce que l'armée russe arrête ou est, quand est-ce que On va les vendre. Et quand je dis on, je pense à toute la communauté des partenaires, non seulement de l'Ukraine toute seule, mais de l'autre côté, bien sûr, la réflexion des penseurs ukrainiens, des écrivains, des philosophes, des artistes, des journalistes, etc. C'est quelque chose qui aide à avoir ce cadre de la solidarité humaine qui est très important quand on pense de l'après. Pareil avec la réflexion scientifique, par exemple, parce que, disons, les scientifiques des genres différents doivent penser également, par exemple, à la reconstruction des villes. C'est quelque chose qui est très concret, c'est quelque chose qui n'est pas artistique du tout, mais c'est quelque chose qui touche les vies de tout le monde. C'est quelque chose qui touche les vies de tout le pays. Je peux en donner plusieurs exemples, comme la réhabilitation des militaires, comme la création du cadre social pour la rentrée de la ligne de front de toutes celles et tous ceux qui ont fait leur service militaire pour défendre l'Ukraine. Il y a plusieurs exemples, et oui, je pense que le cadre artistique, la pensée des artistes, des chercheurs, des penseurs, c'est quelque chose qui aide beaucoup à en penser, même s'il ne donne pas de réponse tout à fait exacte.
C'était un honneur de vous avoir en cette journée internationale de la radio, en ce 13 février. Irina Slavinska, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la radio culturelle publique ukrainienne. Merci beaucoup à vous et très bonne journée à Kiev. Et Slava Ukraini!
Slava, merci beaucoup pour votre attention, pour votre préparation.